C'est l'heure du face-à-face entre Pierre Jacquemin de l'hebdomadaire Politis et David Revaud-Dallone de la revue Hémicycle. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Roselyne.
Bonjour Roselyne.
Votre une, vos unes respectives ?
Eh bien, en ce qui concerne l'hémicycle, c'est toujours la violence en politique, l'incendie avec les attaques contre les élus, mais aussi le ton qui monte entre les différentes personnalités et entre les différents courants politiques de notre pays.
Et Politis, Pierre ?
Et nous, on s'intéresse à la surenchère droitière et plus particulièrement au ministre de la Justice sur les questions de sécurité, son plan pour les prisons, comment justement ça fabrique de la récidive et de l'insécurité.
Parfait, donc à lire dans Politis et l'hémicycle. C'est un livre qui fait boum et qui explose façon Pulse. Le parti de Jean-Luc Mélenchon, la France insoumise, dans la meute, le titre du livre écrit par deux journalistes, Libération et Le Monde, qui ne sont pas suspectés d'être des journaux de droite. Il est question de culture du chef, d'humiliation, d'insultes, de purges et j'en passe. Je vous propose d'écouter la réaction de Mathilde Panot, la présidente du groupe LFI à l'Assemblée.
Je n'ai pas envie de commenter un ouvrage qui collectionne à la fois des ragots et des mensonges, puisque beaucoup des faits rapportés dans ce livre sont faux, sont des mensonges. Je pourrais en citer de nombreux, y compris lorsqu'on le regarde ce livre, si on le croit dans ce mouvement, tout le monde se détesterait. J'ai vu des passages circuler dans lesquels un tel comploterait contre l'autre, l'autre essaierait de prendre la place de l'autre. Ce n'est pas du tout ce qu'est la France insoumise.
Voilà, alors Pierre, ce livre vient-il poser une lumière crue sur ce parti déjà suspecté de fonctionner de manière verticale et violente ? On ne découvre pas la lune, mais au moins on a des témoignages.
Alors c'est un travail journalistique extrêmement passionnant, très précis. 2 ans d'enquête, plus de 200 personnes je crois interrogées. Donc moi je l'ai lu avec beaucoup d'attention et d'intérêt journalistique. Est-ce qu'il y a des énormes révélations d'une manière générale ? Est-ce qu'on découvre le personnage Mélenchon ? Est-ce qu'on découvre les absences, l'absence ou le déni de démocratie ?
On découvre
dans
le système en tout cas.
Non, je crois pas. Franchement, je crois pas.
Bon,
je crois pas qu'on découvre
enfin,
ça.
Le
en tout cas,
interne,
c'est documenté. Donc ça rend d'autant plus effectivement tangible le système, ce qu'on peut appeler le système Mélenchon, ou en tout cas la manière de Mélenchon de faire de la politique, et surtout l'évolution dans la manière de faire de la politique. Moi, j'ai pas appris grand-chose, mais je pense que le grand public, s'il s'intéresse à ce livre, il va découvrir des choses qui sont croustillantes, que nous, les journalistes, nous aimons bien, mais qui ne vont rien changer de la perception qu'ils ont de Jean-Luc Mélenchon.
On a l'impression que vous parlez... Enfin, Pierre, quand même, il y a un moment
si vous voulez,
qui est décrit...
S'il y a une meute en ce moment, Rosine, je vais vous dire, vous allez être contente, elle est médiatique, la meute. C'est-à-dire que depuis 36 heures, on est sur Mélenchon autoritaire, Mélenchon ne devrait pas se présenter à une élection présidentielle parce qu'il est autoritaire. Ouais. J'ai trouvé que les journalistes, les éditorialistes, je les ai tous faits, j'ai tout lu. Ils ont été beaucoup plus indulgents avec Marine Le Pen, qui a été condamnée pour avoir volé dans la caisse, que Jean-Luc Mélenchon, qui pourrait ne plus être candidat parce qu'il est autoritaire. Et je ne nie pas qu'il n'y a pas un problème de démocratie, qu'il n'y a pas un problème d'autorité, qu'il n'y a pas un problème de violence politique dans la France insoumise et chez Jean-Luc Mélenchon.
David, le problème, c'est quand même le sujet de la démocratie interne. Et on ne peut pas s'empêcher de s'imaginer, si Jean-Luc Mélenchon gagnait en 2027... Il y a de quoi se faire du souci.
Évidemment,
quand on voit le système.
Sauf qu'à l'évidence, alors je prends un pari, je risque d'être démenti. Rien ne se passe jamais comme prévu, comme le disait de façon rituelle François Hollande. Mais Jean-Luc Mélenchon ne sera jamais élu président de la République, elle ne sera jamais au pouvoir. Je suis assez d'accord avec Pierre sur le fait que on connaissait grosso modo ce système. Après, c'est vrai que ce livre, c'est une enquête très sérieuse, très documentée par deux excellents journalistes qui connaissent bien leur sujet et qui démontrent très précisément, on a beaucoup de détails, beaucoup d'infos sur le fonctionnement en interne. On ne découvre rien, mais on plonge avec beaucoup d'intérêt dans le fonctionnement et effectivement la dérive autocratique de Jean-Luc Mélenchon. Parce que moi, j'ai longtemps suivi le Parti Socialiste il y a des années pour différents journaux, notamment Libération et Le Monde, qui sont les deux journaux dont sont issus les auteurs de ce livre. Et moi, quand j'ai commencé à suivre le PS, Jean-Luc Mélenchon, il était socialiste. Il avait son courant au Parti Socialiste. Et à l'époque, il était tenant d'une ligne républicaine, laïque, à la gauche du Parti Socialiste, certes, puisqu'il s'était positionné contre le référendum, etc., sur le traité constitutionnel européen. Mais c'était un socialiste bon teint. Et ce qui me saisit, c'est de voir à quel point, finalement, sa formation d'origine trotskiste, vous savez, avec toutes ses épurations successives, selon la doctrine selon laquelle le parti se renforce en s'épurant, la mainmise du couple qu'il constitue avec Sofia Chikirou.
C'est ce que Blum avait dénoncé dans un certain moment, d'ailleurs.
Là, ce qui est intéressant, c'est que vous avez beaucoup de témoignages. Et puis, la question quand même de l'antisémitisme, qui est, révélée de façon assez accablante. Donc, ce qui est intéressant, c'est la dérive du personnage, avec une dimension, on le disait avant de prendre l'antenne, psychanalytique, qui en dit très très long, la paranoïa, la destinée personnelle, la peur de la mort aussi, un livre très éclairant. Et après, je répondrai, parce que je ne vais pas faire trop long, sur ce que disait Pierre par rapport aux différences de traitement par rapport au RN, parce que je pense que c'est une vraie question. Mais on y reviendra peut-être tout à l'heure.
Oui, le RN, effectivement, pour solder l'affaire, effectivement. Vous parlez des problèmes de justice, mais sur le Rassemblement National, vous considérez que les journalistes ont été plus cléments et se sont fait avoir par stratégie de la cravate, à l'Assemblée nationale.
Je ne dis pas que les
mais beaucoup d'éditorialistes ont dit que c'était quand même une façade et que le vrai visage du RN apparaissait au fil du temps.
Je peux vous citer une dizaine d'éditorialistes qui ont fait des éditos politiques pour expliquer que c'était inadmissible que Marine Le Pen puisse ne pas être candidate, puisse être empêchée d'être candidate à l'élection présidentielle alors qu'elle vient d'être condamnée, pour avoir voté dans la caisse, et d'autres journalistes, les mêmes, aujourd'hui, nous faire des éditos politiques pour nous expliquer que Jean-Luc Mélenchon n'est plus crédible, il ne devrait plus pouvoir se présenter à une élection présidentielle compte tenu de son comportement en politique. Je ne nie pas, encore une fois, et je ne dis pas que ce n'est pas un problème,
non,
le comportement de Mélenchon, y compris vis-à-vis de la presse, j'en ai fait les frais plein de fois, je le lis dans le livre plein de fois, et c'est inadmissible, c'est scandaleux ce rapport à la démocratie, et encore plus sur le rapport à la presse. Ce que je dis là, c'est que ce que l'on découvre chez Jean-Luc Mélenchon, c'est la même chose dans les autres partis politiques, la question de la démocratie. Si les partis politiques étaient démocratiques, on le saurait depuis très longtemps. Je ne dis pas qu'il n'y a pas plus, peut-être, du côté de chez la France Insoumise, mais le côté parti fanatique, fan de Jean-Luc Mélenchon, on l'a vu la même chose avec Emmanuel Macron.
Ça concerne les extrêmes. Est-ce que
Emmanuel Macron, vous rigolez quand il crée En Marche, vous avez là un parti de fan club de Emmanuel Macron. Marine Le Pen, Jordan Bardella, vous avez un parti de fan club. Vous parlez de démocratie au Rassemblement National. Ils ont déjà désigné qui était le prochain candidat si ce n'était pas Marine Le Pen, sans même qu'il y ait eu d'élection. Donc ce que je veux dire, attention à ce que l'on dit, c'est pour ça que je dis qu'il y a une meute médiatique.
Non, mais ça s'entend.
Et qu'il y a une mise en scène de la conflictualité, et je dis ici une chose ici, je lance même l'appel à Jean-Luc Mélenchon et à Jérôme Guetch, venez débattre de vos désaccords dans Politis, parce que je ne suis pas sûr que vos désaccords ils soient aussi structurants, ils soient aussi fort qu'il vous empêcherait demain de reparler ensemble pour constituer une majorité politique.
David. Petite nuance avec Pierre sur la question des partis. Assez d'accord sur, évidemment, le côté autocratique, bien sûr, de LFI, mais aussi du RN et quelque part du macronisme, c'est juste. Bon, il y a quand même des partis qui restent relativement démocratiques. On en a un exemple en ce moment avec LR et le PS qui jouent leur congrès et leur destinée. Alors certes, avec des procédures de vote discutables, des triches, des choses viciées, mais on peut considérer que c'est la vie démocratique partisane.
Clairement, c'est un mouvement gazeux, la France Insoumise. Donc il y a un problème dès le départ.
Oui. Mais comme Emmanuel Macron, et la même, d'une manière différente pour le RN, qui est un mouvement totalement autocratique et dévoué à la personne du chef, en l'occurrence de la chef, par et pour son chef. Pierre aussi, je vais peut-être vous étonner sur la réaction à la condamnation de Marine Le Pen. J'ai été assez frappé sur le fait que beaucoup d'éditorialistes s'en étaient pris de la même manière que Marine Le Pen à la justice, en disant que c'était. J'ai trouvé ça un peu curieux que les juges bafouaient l'état de droit précisément.
C'est vrai.
En attaquant la justice. Alors, en revanche, je considère, et je l'ai déjà exposé sur ce plateau, que Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise ont une énorme responsabilité, une écrasante responsabilité, vous parliez de la stratégie de la cravate du RN, dans la respectabilisation et la banalisation du Rassemblement National. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez les enquêtes d'opinion, et c'est pas un scoop, c'est pas nouveau, ça fait des années, les gens aujourd'hui ont davantage peur de la France Insoumise que du Rassemblement National. Je vous expliquais tout à l'heure que pour moi, Jean-Luc Mélenchon ne peut pas gagner l'élection. En revanche, Marine Le Pen, non, puisque vraisemblablement son jugement sera confirmé en appel et qu'elle ne pourra pas être candidate, du moins en 2027. Mais le Rassemblement National et l'extrême droite, en revanche, peut gagner l'élection. Et je pense que la stratégie de conflictualisation, la radicalité, les insultes, la pression, la guérilla parlementaire, le bruit et la fureur qu'avait théorisé Jean-Luc Mélenchon ont rendu ce mouvement haïssable aux yeux des Français, et par comparaison ont rendu le Rassemblement national, qui s'est effectivement abrité derrière une stratégie factice de la cravate, de respectabilisation, ont rendu le Rassemblement national acceptable. Et je pense que, et j'en finis là-dessus,
ils ont une responsabilité.
Jean-Luc Mélenchon a été l'idiot utile du Rassemblement national et du lepénisme.
C'est tout à fait vrai.
Alors, c'est tout à fait vrai. Il ne faut pas disculper non plus totalement ceux qui sont en responsabilité. C'est-à-dire que quand on met des politiques qui valident les politiques qui seraient proposées par Marine Le Pen, ils participent de la crédibilisation du Rassemblement national. Maintenant que la force de la France insoumise soit passée d'un rapport de force, souvenez-vous, les sondages en 2017 de 66% pour Jean-Luc Mélenchon s'il se retrouvait face au second tour, face à Marine Le Pen qui était à 33%, aujourd'hui c'est inversé. C'est-à-dire que le sondage qui est apparu la semaine dernière où Mélenchon apparaît à 33%, 66% pour... voilà, il y a une inversion. Donc ce que je veux dire, c'est que ce qu'on se dit là, quand même, moi je dis qu'il y a un jugement médiatique que je trouve beaucoup trop...
Clément.
Alors, Clément sur Marine Le Pen et peut-être trop LFI bashing du côté de la France insoumise. Ça ne peut pas ne pas interroger la France insoumise. Ils ne peuvent pas ne pas se dire qu'il n'y a pas un problème de démocratie. Ils ne peuvent pas ne pas se dire qu'il n'y a pas un problème d'antisémitisme, quand même je ne crois pas qu'ils soient antisémites. Alors, ils ne peuvent pas ne pas se dire que la question de la conflictualisation permanente de la politique, ça n'est pas un problème. Et tant qu'ils ne comprendront pas ça, effectivement, la gauche n'arrivera jamais au second tour parce que la gauche n'arrivera jamais à se rassembler.
Le problème, Pierre, c'est que vous savez bien qu'ils ne se poseront jamais ces questions, puisque par définition, quand vous, en tant que journaliste, commentateur, analyste, et non pas comme opposant politique, quand vous formulez ces critiques ou ces observations, vous appartenez immédiatement, immédiatement qualifié, comme l'a dit Mathilde Panot, au gang des menteurs, aux stipendiés et vendus à l'extrême droite. C'est un mouvement qu'on peut qualifier de sectaire. Quand vous lisez ce livre et quand vous lisez, voilà, il y a une secte qui est dévolue, un mouvement gazeux, vous le disiez, construit par
les trotskistes,
Jean-Luc Mélenchon. Voilà, c'est le lambertisme des débuts qui a rattrapé le Jean-Luc Mélenchon que j'ai connu moi il y a 25 ans, qui était un socialiste bon.
Une phrase très forte dans le livre, si tu doutes, tu trahis.
Voilà, exactement.
C'est ça aussi la matrice de la France insoumise.
Bah, c'est la loi des suspects au moment de la Révolution. Hein. Si vous doutiez, vous posiez des questions, vous étiez un suspect. C'est exactement...
Il y a un fonctionnement stalinien, ce qui est paradoxal pour les trotskistes, puisqu'on sait que les trotskistes...
Ou robespierristes, puisqu'on sait que Jean-Luc Mélenchon est un admirateur de Robespierre. Ouais. Mais quand même, hier, à l'Assemblée nationale, l'Assemblée nationale examinait un texte pour lutter contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur, dans une ambiance très houleuse. Seul le premier article a été voté. Il prévoit d'inscrire la sensibilisation à la lutte contre l'antisémitisme et le racisme parmi les missions de formation des établissements. LFI a été le seul groupe a voté contre cet article car il voulait le réécrire sous prétexte. Cela vient-il quand même renforcer les soupçons d'antisémitisme ? C'est quand même... c'est dérangeant.
Force est de constater qu'il y a quand même eu depuis, et ça ne date pas du 7 octobre et de l'attaque du terroriste du Hamas contre Israël et de la guerre à Gaza, il y a eu quand même une dérive de Jean-Luc Mélenchon sur cette question. D'ailleurs, les auteurs du livre en attestent, puisqu'ils exhument toute une série de déclarations, de commentaires que Jean-Luc Mélenchon a fait sur soit des journalistes, soit des membres de la France insoumise d'origine juive, en disant qu'ils sont stipendiés par le Likoud, ou que, comme il l'avait dit à propos de Jérôme Gage, qu'il les retenait au piquet par la laisse de ses adhésions, le fanatisme de Ruth Elkrieff, la journaliste. Enfin, je veux dire, ça fait 15 ans, une bonne dizaine d'années en tout cas, et même une 13 ans que Jean-Luc Mélenchon, je me souviens, ça avait commencé en 2013 par une déclaration sur Pierre Moscovici, ministre de l'économie à l'époque socialiste, dont il avait expliqué qu'il ne représentait pas la France, mais la finance internationale. Et Jean-Luc Mélenchon est quelqu'un de trop cultivé, trop éduqué, qui connaît trop l'histoire politique de notre pays et du monde, pour ne pas savoir qu'il s'agit là de claire référence à l'antisémitisme. Comme l'affiche Hanouna. Donc, il y a deux questions. Il y a une question. Est-ce que c'est une stratégie politique ou c'est une conviction ? Je ne crois pas que ce soit très intéressant dans un cas comme dans l'autre. Je pense que c'est détestable et haïssable et condamnable. Mais au vu des dernières conclusions de ce livre, on a quand même l'impression et le sentiment qu'il s'agit plus de conviction personnelle ou au moins autant d'une conviction personnelle que d'une stratégie. Enfin, je m'en réfère aux auteurs de ce livre, une fois de plus.
Pierre, là-dessus, quand même, n'est-ce pas troublant de ne pas... Enfin, un article qui propose de lutter contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur, il ne le vote pas.
Je confesse ne pas avoir pris connaissance de quelle était la raison pour laquelle il voulait réécrire. Le problème reste entier. Et je ne crois pas qu'il y ait dans la France insoumise ou dans Jean-Luc Mélenchon la conviction de l'antisémitisme. Je pense qu'il a passé sa vie à le combattre. Il a passé sa vie à combattre l'antisémitisme et le racisme. Ça a été la force de son combat.
Pas depuis trois ans.
Je note qu'il y a encore un an, lors lors de même pas un an, lors des élections législatives, Jean-Luc Mélenchon comme Jérôme Guedj se sont entendus sur un programme politique, y compris de lutte dès l'école sur la question de l'antisémitisme et la question du racisme.
Non, mais d'accord, mais je vous parle de maintenant quand même. Jérôme Guedj qui est sifflé.
Donc en 6 mois, Jean-Luc Mélenchon est devenu antisémite, c'est ça que vous voulez
dire ? Non, mais pas en 6 mois, Pierre, enfin, je viens de vous expliquer que depuis 2013, il y a toute une série de déclarations.
Je viens de vous dire qu'aux dernières législatives, il y a un engagement.
Ils sont quand même plus, pour le moins questionnables. Il nous a expliqué, Jean-Luc Mélenchon, il y a quelques mois, pardon, très rapidement, que l'antisémitisme en France était résiduel, alors qu'on a une explosion de 300% des actes antisémites. Mais... enfin, c'est quand même complètement fou. Donc ça, c'est une stratégie électorale qui vise à miser sur un vote communautariste en surfant sur l'antisémitisme, tout simplement.
Ils ne peuvent pas ne pas s'interroger sur les raisons pour lesquelles les gens pensent qu'ils sont devenus antisémites ou qu'ils favorisent l'antisémitisme.
C'est que c'est, quand ils termes jolis, quand jolis termes, ces choses-là sont dites.
Ils ne peuvent pas, ne pas s'interroger. J'ai la conviction et l'absolue conviction, pour les connaître quand même très bien et les suivre de près depuis très longtemps, qu'ils ne sont pas antisémites. Ça n'est pas un parti antisémite.
Ce n'est pas peut-être pas un parti antisémite.
Qu'ils génèrent de la violence en politique à cause de cet antisémitisme latent dans la société, qui est quand même très fort.
Pierre,
et qui,
je vous ai rappelé à l'instant les quelques déclarations
mais
qu'il avait faites.
Je viens de vous rappeler un acte politique extrêmement fort, qui est celui d'un contrat de gouvernement qui a scellé la France insoumise avec le Parti socialiste de Jérôme Guedj, où il était très clairement écrit dans parmi les 600 propositions qui étaient les leurs, la lutte contre l'antisémitisme et le racisme dès l'école. Et donc je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui il voudrait remettre en question un acte.
Il y a les écrits, les faits.
Jean-Luc Mélenchon est un peu comme Monsieur Jourdain. Pourquoi, il fait de l'antisémitisme sans le savoir.
Si vous allez jusqu'au bout là, de votre démonstration que vous venez de dire, là, que vous venez de dire sur l'antenne, c'est quoi la raison pour laquelle la France insoumise s'est opposée à ce texte ou en tout cas a voulu réécrire ? Est-ce qu'on le sait aujourd'hui ?
Oui, tout à fait. Il voulait le réécrire différemment.
Mais c'est quoi différemment ? Enfin, je veux dire, ça ne donne pas les
changer les mots.
Des arguments politiques. Le problème, c'est que là, on fait genre je défends et vous défendez pas. Mais moi, j'ai même pas envie de les défendre. Ça pose problème. Effectivement, en lecture de la société, ils n'ont pas voulu adopter l'amendement et tout le monde va le lire comme ça. Donc c'est un problème politique. Donc ils construisent ce problème politique. Et c'est ça que je ne veux pas le nier. Je ne nie pas qu'ils construisent le problème politique sur l'antisémitisme.
Non, je pense que Pierre tourne un peu autour du pot et le dit en termes très élégants, mais franchement, disons-le, depuis des années et même encore plus depuis le 7 octobre, Jean-Luc Mélenchon, et c'est un délicat euphémisme, flirte avec la ligne jaune de l'antisémitisme, l'a allègrement franchi. Certains de ses proches l'ont franchi encore plus allègrement. Je pense à des gens comme David Guiraud, je pense à des gens comme Thomas Porte, je pense à évidemment Madame Rima Hassan. Et je pense que Jean-Luc Mélenchon a eu toute une série de déclarations extrêmement problématiques qui fait qu'on se pose forcément la question, oui, de l'usage de l'antisémitisme, qu'il s'agisse d'une conviction ou d'une stratégie, encore une fois, dans un cas comme dans l'autre. Je ne sais pas qui est le plus condamnable, mais de toute façon, c'est condamnable.
Merci à tous les deux. Merci de ce passionnant débat. Et on se retrouve demain pour un autre épisode politique avec Jean-Marie Colombani, nos invités.
Conclave, qui sera le prochain pape ? Un événement à suivre sur France 24. Comme l'histoire de notre monde est en perpétuel changement, comme le flux d'informations est sans cesse croissant, nous sommes là sur tous les thèmes. Nous vérifions, nous nous engageons sur le terrain, en toutes circonstances, pour anticiper le futur, en comprenant le présent. Nous sommes avec vous, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. France 24. Un autre regard sur l'actualité.
Liberté, égalité, actualité.
Je m'appelle Grégory Pless, je suis le correspondant de France 24 à Sydney, une ville aux avant-postes de la crise climatique, mais aussi des tensions grandissantes dans la région Indo-Pacifique. Alors sur ces questions, comme sur toutes les autres actualités qui comptent en Australie et en Nouvelle-Zélande, vous pouvez compter sur moi pour vous en parler sur France 24.
Grégory Pless, l'un des 200 correspondants de France 24 dans le monde. France 24, un autre point de vue.
Liberté, égalité, actualité.